Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
C'est l'heure de retrouver Stéphane Gendron. Salut Stéphane.
On est quel jour aujourd'hui?
On est lundi.
Lundi. On est dans l'intemporel, là, quand c'est les fêtes comme ça, là, on est un peu désorienté.
Oui, est-ce que tu as fêté ton Québec en fin de semaine? Comme il se doit?
Non, mais c'était une belle fin de semaine reggae, par exemple, il faisait chaud. C'était magnifique.
Oui, c'était humide, chaud, humide.
Oui, very, very, very humid. Bon, ben là, on a des sujets, là. As-tu parlé de l'avortement, mon beau?
Ben écoute, je t'amène là-dessus dans un instant. Je voulais commencer sur un ton plus positif parce que c'est déprimant ce qui se passe aux États-Unis.
Ah oui, tu trouves?
Stéphane, ben oui, quand même, quand la Cour suprême ne semble plus du tout représenter la vie de sa population, on a un sacré problème. C'est un peu ce qui arrive aux États-Unis, là.
Oui, mais attention, Dess, là. Moi, là, je veux ramener les gens à l'origine. Je veux pas faire un cours là, parce que ça fait un peu présomptueux là, puis il fait chaud là, on est en tête ailleurs.
Non, mais on attend ton savoir là.
Ben c'est pas un savoir là, on a tout appris ça à quelque part là, le principe de la séparation
des pouvoirs.
Oui. Ah, c'est très français ce Montesquieu. Oh, Montesquieu, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Ben il a présidé un peu à la fondation des États-Unis parce qu'ils ont repris un peu ce principe là, l'exécutif d'un bord, le président, ensuite le législatif au Congrès d'un autre bord.
Sauf que Stéphane, les juges sont nommés par le politique là, pendant.
Oui, mais il faut toujours bien qu'ils soient nommés par quelqu'un.
Oui, mais ça dépend de quand est-ce qu'il meurt. Est-ce qu'il meurt pendant un gouvernement républicain ou pendant un gouvernement démocrate? Ça donne la teinte de il y a un problème dans le système là.
Je dis pas que le système est parfait, mais tu peux pas demander à une cour de juger en fonction du vent, de l'humeur, de l'opinion publique. Il faut que la cour soit imperméable à ça. Ça, c'est le premier principe. Sinon, c'est la justice populaire. Ça donne quoi de nommer des juges indépendants ils reflètent pas l'opinion publique?
Ben, ça dépend.
Pas qu'ils reflètent l'opinion publique. On veut qu'ils reflètent l'état du droit.
Oui, mais tu veux des juges qui, justement, respectent le droit civil et non pas de Jésus et de la Bible.
Ah, mais attention! Moi, j'ai pas fini de lire l'arrêt Dobbs. Là, on parle du jugement aux États-Unis sur l'avortement qui a renversé Roe versus Wade. Oui, ça c'est correct, mais c'est l'arrêt Dobbs qui implique un officier là, de la santé de l'État du Mississippi. Bon, là, tout le monde parle du jugement, là, mais le jugement a 213 pages en petit caractère 10 points. Alors, j'ai commencé à lire ça. C'est bien intéressant, mais je me suis claqué le résumé. Moi, être honnête avec vous autres, je sais pas.
T'as bien fait. Vas-y.
Mais c'est intéressant. Au fond, là, moi, je suis heureux de ce jugement-là. Savez-vous pourquoi? Parce que ça me fait aimer le Canada. J'aime la Cour suprême du Canada. J'aime le système judiciaire canadien. J'aime mon pays. J'aime ces 9 personnes-là en robe à Ottawa qui ont la chance de nous interpréter notre Constitution, notre Charte des droits. Parce qu'aux États-Unis, ce qui est arrivé, c'est ça. C'est exactement l'inverse du Canada. On a des juges à la Cour suprême aux États-Unis, ils sont 9, comme au Canada. Comme tu dis, Edès, sont nommés par le politique. Comme au Canada, là, au Canada, c'est la reine sur recommandation du premier ministre.
Bon, oui, on comprend que les nominations chez nous, peu importe les gouvernements, sont pour l'instant là, sont moins teintées politiquement pas mal.
Oui. C'est ça, il y a un processus de consultation, puis il y a 3 sièges de droit civil qui sont réservés pour le Québec. Là, tu sais, c'est bon. Bon, ok. Mais aux États-Unis, là, ils ont une approche, surtout les conservateurs, depuis qu'ils sont majoritaires, là, tu sais, depuis que Trump a nommé 3 juges de plus. Là, bon, là, les conservateurs sur le banc, là, ils sont majoritaires. Eux autres, là, ils interprètent la Constitution comme les talibans interprètent le Coran. C'est l'approche littéraliste.
Une version radicale de l'interprétation de textes religieux.
C'est-à-dire, c'est du mot à mot. Alors, c'est admettons, l'avortement n'était pas spécifié dans les droits garantis du Bill of Rights. Ça, c'était vers les années 1860 et quelques, là. Ben, too bad, ça s'arrête là, les droits sont pas là, les pères fondateurs en ont pas parlé, les législateurs avaient pas ça en tête, on n'en parlait pas dans le temps de l'avortement, donc, la Constitution américaine ne garantit pas le droit à l'avortement. Je résume, là, grossièrement, c'est ça que la majorité a dit.
Exact.
Puis pire que ça, Le seul juge afro-américain qui est sur le banc, là, M. Thomas, là, bon, nommé par le président Bush à l'époque, il dit, moi, j'irais un peu comme Dupont et Dupont, je dirais même plus le droit au mariage gay, puis le droit à la contraception, ça n'existait pas dans le temps. Ben, c'est pas garanti. Donc ça sera la prochaine étape. Les États, il y a déjà un État qui dit, moi, la contraception chez nous, c'est fini, interdit. Alors, au Canada, c'est l'inverse. Il y a un juge dans les années 20 au Canada, dans un dossier là, de haute cour, qui a dit la Constitution. Ça s'est passé en Angleterre, ce jugement-là, mais ça concernait la Constitution canadienne. Regardez ça, comment on a un beau pays. Le juge, il dit, la Constitution canadienne qu'on a plantée en 1867 en Amérique du Nord, c'est comme un arbre vivant qui va étendre au fil des années ses racines et ses branches pour que la Constitution puisse refléter ce que sera la société canadienne.
Oh, c'est bien dit, ça.
Hey, je vous dis ça, j'ai le goût de brailler. On est-tu bien au Canada?
Et ça, c'était il y a 100 ans, là.
Ben, dans les années 20, je te dirais. Ben, je pense que c'est 1929, ben, Lord Sankey.
Presque 100 ans. Parce qu'en ce moment, Stéphane, j'ai l'impression aux États-Unis, on voit le texte de la Constitution. Là. Puis oui, on comprend qu'il faut que ce soit difficile à changer parce qu'on veut pas que ça change au fil des modes. Mais c'est parce qu'aux États-Unis, on le voit comme un texte comme divin, là, écrit par des divinités, alors que c'était des êtres humains. Il y a des êtres humains de qualité similaire aujourd'hui, assurément, puis qui sont capables de modifier ces textes-là. Mais on semble incapable de toucher à ça parce que c'est un texte pratiquement religieux pour bien des Américains.
Ben, je te dirais, oui, t'as raison, puis c'est normal que ce soit difficile à changer une constitution. Sinon, là, selon l'humeur du peuple, on changerait, on remettrait à peine de mort, on enlèverait à peine de mort.
Exact. Mais sur l'avortement, c'est fondamental pour des Américains depuis des décennies. C'est quelque chose d'ancré dans le tissu social maintenant et qui n'est pas une mode, là.
Non, les deux tiers, grosso modo, à peu près 60% des Américains sont pour l'avortement. Au Canada, là, je pense pas que ce soit un débat, mais la beauté, là, au Canada, c'est qu'on n'en a pas de limite à l'avortement. La limite, là, c'est le code de déontologie du médecin qui dit, ben, des avortements tardifs, là, mon code de déontologie me dit que c'est très, très, très exceptionnel. Mais il n'y a pas de limite au Canada. On n'a pas ce débat-là parce que on a considéré, avec l'histoire de Mme Daigle, là, puis Jean-Guy Tremblay, à un moment donné, là, on a décidé qu'on pouvait pas criminaliser l'avortement parce que pour qu'un enfant ait des droits, contrairement aux États-Unis, là, pour qu'un enfant ait des droits, il faut qu'il soit né, vivant et viable. Ça s'arrête là. Je veux dire, autrement, c'est un tissu du corps de la femme et c'est bravo.
Mais crois-tu, Stéphane, je voyais des familles, là, la petite famille républicaine de banlieue, là, plusieurs publiant en disant « Ah, arrêtez de faire avorter vos enfants, on va les adopter si vous voulez pas. » Mais pendant ce temps-là, il y a des centaines de milliers d'enfants dans des orphelinats aux États-Unis. Ben puis toutes ces familles anti-avortement, ça semble pas se garrocher pour adopter ces pauvres enfants-là.
Non, puis en tout cas, je vous dirais, là, faites un tour sur les sites d'adoption privée aux États-Unis, là, c'est scandaleux, là, puis ce que tu dis, c'est vrai, là, puis vous allez voir qu'un enfant noir vaut moins cher qu'un enfant blanc. Ça, c'est juste pour vous donner à quel point là, le système d'adoption aux États-Unis, c'est pourri, là. C'est dégueulasse, en tout cas. On pourra en parler pendant des heures, mais moi, je suis fier. Vraiment, là, je dis pas qu'un Québec indépendant, demain matin, se mettrait à criminaliser l'avortement, ça serait épouvantable, les droits et libertés. Mais je suis content d'être au Canada parce qu'il y a un ministre de la Justice qui a dit il y a quelques semaines, le ministre de la Justice du Québec, M. Jolin Barrette, que la Charte canadienne devrait être soumise à la volonté de l'Assemblée nationale du Québec. Si on parle de parlementaires qui peuvent changer des lois là en criant ciseaux avec une grosse majorité, là, on parle de ce monde-là, là. Ben moi, ça m'inquiète pour l'avenir.
Ouais. On veut que ce soit un bateau qu'on peut faire virer, mais tranquillement.
Ben, en tout cas, au fur et à mesure que la société évolue, pas qu'elle régresse, qu'elle évolue.
Bon. Et aux États-Unis, on voit par contre sur des questions comme restriction des armes à feu, une grande majorité, mais sont incapables d'aller de l'avant aussi. On semble que le système suit vraiment plus du côté
de
la majorité.
Ah, c'est le déclin. Non, mais tu sais, je veux dire, le déclin de l'Empire américain, là, il y a plusieurs livres qui ont été écrits là-dessus, là, c'est pas juste un film.
Tu penses qu'on est arrivé? Bon. Ouais. Est-ce qu'on pourra oublier tout ça grâce à des champignons magiques? Parce que de plus en plus, Stéphane, on discute d'utilisation de certaines drogues hallucinogènes,
oui.
mais dans un objectif de traitement là, santé.
Oui. Oui, en 2018, là, je vous parle de ça parce qu'il y a un ancien maire de Vancouver qui est sénateur aujourd'hui, au Canada, là, je parle. Puis un ancien chef de police aussi. En tout cas, bref, il n'y a pas tellement longtemps, il raconte ça à une journaliste, là. Bon, il n'y a pas tellement longtemps, il se sentait de bonne humeur, mais bonne humeur normale, là. Tu sais, pas bonne humeur dans un high, là. Puis il était toujours marabout, dépressif depuis 30 ans, colérique, là, bougon. Là. Puis là, tout d'un coup, depuis 2-3 jours, je sais pas trop, ça se met à bien aller. Puis là, c'est sa femme qui saupoudrait des champignons magiques dans son café, puis il savait pas trop, il s'en est pas aperçu, mais il se sentait bien. Alors là, il a commencé à lire là-dessus, puis c'est tout vrai, ces affaires-là, là, c'est pas lui qui a découvert ça. Là. En 2018, la ville de Denver, au Colorado, a légalisé la consommation de champignons magiques. Puis, ça prend de l'ampleur. Moi, ça fait plusieurs articles que je lis là-dessus, là, je dois pas être le seul, là, que tu peux traiter la schizophrénie, tu peux traiter des cas de santé mentale très lourds, là, des cas oui. lourds, avec le champignon magique. Là. Tu vas me dire, il y a sûrement des variétés là, ou des concentrations, mais
ouais,
ça
mais même
fonctionne.
On disait, parce que scientifiquement, on montrait que la drogue la plus sécuritaire, c'était le champignon magique. Il y avait très peu de cas, par exemple, d'overdose, ouais. de mauvaise utilisation, ouais. de mauvais sentiments, et que par petite dose bien choisie, ben, on était capable oui. de traiter certaines problématiques.
Oui, oui, mais ça fait peur. Mais ça, oui. ça ramène tout le débat. Je ne sais pas si les gens s'en souviennent, là, quand Trudeau est arrivé PM, là, il y a eu une espèce d'effervescence. Là. On s'est dit, pourquoi on décriminaliserait pas toutes les drogues, là, comme on a fait au Portugal?
Oui.
On cite souvent le cas du Portugal. Ben moi, je pense que c'est une bonne idée. Ça vaut rien comme opinion, vous allez me dire, là, mais ça donne quoi de criminaliser le consommateur qui souvent est dépendant ou en tout cas a des problématiques, là, des comorbidités? S'en prendre aux trafiquants, c'est une chose. Mais s'en prendre aux consommateurs, ça donne rien. C'est un cas de santé publique.
Oui, mais surtout qu'on a quand même vu, on se souvient, quand Trudeau est arrivé sur le pot, là, il y en a plein qui disaient, oui. ben, c'est, écoute, la première politique qu'il veut, c'est juste qu'on fume du pot, puis tout ça, mais on s'attendait à ce que le monde se mette à fumer du pot partout. Ça a duré quoi? On a tout acheté la première journée, là, ça a duré 2-3 semaines. Puis après ça, les gens qui en fumaient pas, n'ont pas plus fumé. Ceux qui en fumaient en fument de là. Mais ça, il n'y a rien qui s'est passé, là. Rien qui s'est passé. Alors, on peut penser que ce serait la même chose dans d'autres drogues, que tu vas pas te mettre assez l'héroïne parce que c'est soudainement légal.
Non, mais toutes les drogues, là, même l'héroïne, là, il y a des endroits, il y a des centres d'injection supervisés maintenant à Montréal.
Oui.
Là, bon, je veux dire, la Terre n'a pas arrêté de tourner là pour ça. Mais plus tu fais la guerre aux consommateurs de drogue, plus tu t'éloignes de ton objectif de santé publique des sortir de là. Là. Ça fait pas de sens.
Ouais. Et est-ce que mais souvent notre hésitation là-dessus, c'est un peu puritain de faire les drogues? Ça nous inquiète un peu, puis on se dit à ça, qu'on a de la misère à s'imaginer.
Là, le monde continue à crever. Là. Moi, je sais pas s'il nous reste du temps, là, mais j'ai eu un cas ici d'une mère de famille là, dans ma région. Là. Son petit était à Vancouver, 21 ans. Problème de santé mentale diagnostiqué, là, tu sais, bon, puis il se ramasse dans la rue à Vancouver. Elle veut le ramener ici, c'est l'hiver, on en jase, est allé le chercher, il est revenu, mais le jeune, il fallait le sortir de l'enfer de sa consommation. Fait que là, il y en a qui disaient, ben c'est ça, il continue à prendre de la drogue, puis il continue à prendre de la drogue. Fait que là, le petit, vous savez ce qui est arrivé, le petit, ben il est reparti à Vancouver. Puis on a reçu le call, on l'a retrouvé mort dans une ruelle à Vancouver. Tu sais, je veux dire, faire la lutte, nier le problème, c'est juste un exemple parmi tant d'autres.
Bien dit, merci Stéphane, à demain.